Christian Jambé n'est pas quelqu'un qu'on puisse présenter vraiment aux Journées Corbin, puisque c'est plutôt lui qui illustre, qui représente les Journées Corbin. Son œuvre est extrêmement imposante. Je n'ai pas la passer en revue ici, une douzaine de monographies, des participations, des ouvrages collectifs, de très nombreux articles. Je m'en dispense d'autant plus facilement que l'année dernière a été publié un volume d'hommage à Christian Jambé, Raison et quête de la sagesse, dans laquelle on trouve une bibliographie complète de toutes ces recherches. Pour nous, on peut simplement souligner ces très très importants travaux concernant Henri Corbin, sa pensée et son patrimoine. À commencer déjà bien sûr par la logique des orientaux en 1983, et puis l'édition de textes posthumes de Corbin, la présentation de ces textes, et enfin des chapitres et des articles concernant la pensée de Henri Corbin. Voilà, Christian. Merci.
Merci Pierre. Donc, donner de procéder à la première communication de cette journée consacrée à la notion, au concept de gnose, qui, situé dans l'horizon des travaux d'Henri Corbin, mérite peut-être quelques remarques préliminaires. Je les situerai cependant dans le cadre déterminé et précis du propos que je souhaitais tenir devant vous et qui porte sur le gouvernement du gnostique selon les plutôt certains philosophes de l'Iran, de façon à illustrer un aspect peu exploité ou trop peu exploité des recherches sur la gnose iranienne islamique. Alors, il reste donc, comme je venais de le dire, le thème s'est imposé à nous du seul fait que Henri Corbin a usé de la notion de gnose, n'est pas le seul d'ailleurs en islamologie au XXe siècle à le faire, pour désigner des phénomènes spirituels précis. Il a amplement usé de ce concept au sens le plus général de connaissance salvifique ou salvatrice, c'est l'expression qu'il utilise. Connaissance qu'il distingue d'une connaissance procurée par divers savoirs qui n'ont pas pour finalité la transformation de l'âme humaine et la réalisation intime des vérités acquises par les fonctions supérieures intellectives de l'âme humaine. Ceci est la définition, au fond, la première détermination la plus générale que nous rencontrons chez Henri Corbin. Un des textes les plus réfléchis et d'ailleurs les plus difficiles à examiner, qui mérite en lui-même une assez longue étude, c'est le prologue qu'il a placé en tête de la vaste somme intitulée « En islam iranien », 4 tomes d'En islam iranien parus en 1971 et 1972. Il a tenu précisément dans ce prologue à définir la gnose telle qu'il la conçoit ou telle qu'il use de son concept. Selon lui, il faut associer la notion de gnose à la connaissance des univers intérieurs. Et bien sûr, cette expression fait référence, selon lui, pour lui, à un couple de termes qu'il analyse, couple de termes en langue arabe, el-zahir, el-batin, l'extérieur, l'intérieur, l'exotérique, l'ésotérique. Les univers intérieurs sont donc référés à cette notion de caché, ésotérique, corrélation avec un aspect ou une dimension extérieure. En effet, il n'y a pas d'intérieur sans extérieur et réciproquement, si je puis dire. Et donc, les deux termes sont solidaires. Et il fait bien référence à un système d'univers, c'est-à-dire un système hiérarchique où des univers de plus en plus cachés ou de plus en plus apparents sont articulés les uns aux autres. En réalité, ces univers intérieurs se réfèrent la plupart du temps, dans ce qu'il analyse, à des modèles néoplatoniciens et il songe au monde de l'âme universelle et au monde de l'intelligence universelle tel qu'il les découvre chez les auteurs iraniens dont il présente les œuvres dans les quatre volumes dans l'islam iranien. Mais les univers sont également dits intérieurs, non plus en un sens cosmologique, au sens où ils seraient les dimensions intérieures ou les réalités intérieures dont le monde sensible serait la manifestation, mais où ces univers sont intérieurs à l'âme elle-même, ou bien l'âme universelle, ou bien l'âme particulière à chaque être humain doté de logos, et c'est bien de cela qu'il s'agit ici, d'une âme douée de logos et de ses correspondants cosmiques et hypercosmiques. Donc la gnose se présente sous des traits assez précis, du moins dans le cadre islamique, tel qu'évidemment Corbin l'étudie. D'une part, corrélation, correspondance entre l'âme humaine douée de logos et les structures cosmiques et hypercosmiques, c'est-à-dire l'ensemble de l'univers et les mondes qui sont supérieurs à l'univers physique, et d'autre part, cette correspondance se traduisant par le fait que, de même que l'âme a une dimension extérieure accessible par une connaissance réflexive et qui est, grosso modo, faite de ses facultés animales et sensitives, eh bien, cette même âme, douée de logos, a une dimension intérieure qui commence avec le monde de l'imagination et qui se parachève en son sommet, mais aussi dans ses profondeurs, par le logos qui lui-même est assimilé à l'intellect. Il en va ainsi des âmes humaines, mais il en va ainsi des âmes célestes, et de ce qui les domine, c'est-à-dire ce qui leur est le plus intérieur, le monde intelligible. Henri Corbin conçoit, dans les pages où il définit la gnose, la structure, au fond, gnostique de l'univers, dans les termes suivants, quatre mondes sont intégrés les uns aux autres. Le plus superficiel, le plus apparent, c'est le monde sensible. Puis viennent le monde des âmes, nommé par les auteurs iraniens Malakout. Puis vient le monde intelligible, Jabarut. Et enfin, le monde divin. Et dans un tel cadre, Henri Corbin voit bien que la gnose, ou juge en tout cas, c'est ce qu'il écrit, que la gnose, ne se résume pas au gnosticisme. Alors c'est un point que je ne traiterai pas parce que tout ceci est purement introductif, mais de fait, il y a présente dans les recherches de Corbin une difficulté qui frappe les lecteurs, et qu'on peut énoncer en termes simples, pourquoi le mot gnose est-il utilisé ici pour désigner au fond des systèmes de pensée plutôt métaphysiques et ou néo-platonisants, alors que chez les auteurs de langue arabe ou persane dans le, du monde islamique, il y a au total peu de similitudes avec les systèmes gnostiques tels que tels qu'on les désigne d'ordinaire et que désigne donc ce terme générique de gnosticisme si on l'admet. Autrement dit, il y a peu de similitudes, par exemple, entre la gnose valentinienne et la gnose chiite présente chez Amullah Sadra. Et il y a quelques grandes similitudes que l'on peut dégager entre la gnose ismaélienne, telle que la définit Corbin, et certains systèmes du gnosticisme proprement dit. Il y a des traces de marcionisme, il y a des traces de tel ou tel ou tel texte ordinairement considéré comme gnostique, mais certainement pas quelque chose comme une reprise du gnosticisme comme phénomène propre à l'intérieur de l'islam. De sorte que Henri Corbin disjoint gnose et gnosticisme sans cependant les séparer tout à fait, sans inclure non plus complètement le gnosticisme dans le concept général de la gnose, qui devient d'ailleurs un concept tel que son extension se multiplie en proportion de l'affaiblissement de sa compréhension, comme toujours. Henri Corbin écrit « Il y a une gnose juive, une gnose chrétienne, une gnose islamique, une gnose bouddhique ». Donc il en vient à considérer la notion de gnose comme une notion générique important à l'histoire des religions, non seulement des religions dites abrahamiques, mais même de religions extérieures au monde monothéiste, comme par exemple le bouddhisme. En vérité, il n'y a pas là d'excès, il y a la trace d'abord d'un historique d'un programme dont on a trop peu écrit l'histoire, d'un programme bien déterminé qui correspondait à l'époque, au temps des Ranos, comme disait Corbin, c'est-à-dire à l'époque de ce cercle de recherche qui se réunissait annuellement à Ascona, dans le Tessin, et où, de fait, quand on lit les textes, circulait cette idée elle-même programmatique d'une recherche qui mettrait en relation, confondrait, mais mettrait en relation et en correspondance précisément une gnose juive, thème que l'on rencontre chez Gershom Scholem, sous certaines formes un peu spécifiques, gnose chrétienne, alors notion délicate, bon, je ne sais pas ce que Corbin voulait dire par là, mais il ne voulait pas parler seulement, sans doute, des pères de l'Église qui usent du mot gnose, mais il étendait la notion probablement bien au-delà et en relation avec certains travaux antérieurs d'Alexandre Coiret, auquel il accordait la plus grande importance. Donc évidemment, il pensait à tout un ensemble d'auteurs de l'ésotérisme ou de la spiritualité, qu'elle soit protestante ou orthodoxe. La gnose islamique, bon, c'est son affaire, gnose bouddhique, la chose n'a jamais été reprise chez lui, et même il y a eu une sorte de retrait ultérieur sur ce terrain, puisqu'il a tenu, dans ses derniers écrits qu'il nous a laissés, d'une certaine manière, à congédier hindouisme et bouddhisme hors du champ de ce qu'il appelait gnose. En réalité, selon lui, cette notion de gnose est inséparable de la notion de connaissance mystique et elle est foncièrement ce que Henri Corbin appelle ésotérisme au sens premier du terme, c'est-à-dire recherche et connaissance du monde intérieur, que ce soit l'intériorité du cosmos, l'intériorité du monde divin, l'intériorité des Écritures ou l'intériorité de l'âme humaine. Le fond gnostique devient synonyme d'ésotérique au sens précis d'intérioriste. Et Corbin de répéter maintes fois, sans préciser les cibles, que cet ésotérisme se distingue radicalement de ce qu'il appelle les pseudo-ésotérismes contemporains. Donc, il entend évidemment ôter toute espèce de confusion, non sans nous laisser un peu là, dans l'expectative. Il considère que cette connaissance dite ésotérique et donc gnostique conduit à une sagesse divine, et c'est en fonction de cette notion de sagesse divine, Chechma Ilahiya en arabe, que Henri Corbin en vient à traduire, peut-être dangereusement parfois, une expression que nous allons rencontrer qui est très familière, qui est très constante chez les auteurs de l'islam spirituel, l'expression « el-aref billah », celui, littéralement, celui qui a une connaissance de Dieu, mais une connaissance intime de Dieu, eh bien, l'aref billah, Henri Corbin traduit l'expression par le théognostique, ce qui est évidemment littéralement exact, mais qui entraîne l'usage du mot gnose et du mot gnostique en un sens, on parlera de théosophie, théosophia, en un sens qui mérite toujours d'être précisé. La hekma, la sagesse, étant une hekma ilahia, sagesse divine, Henri Corbin traduit systématiquement théosophie, tout en devant immédiatement préciser que cette théosophie n'a rien à voir avec la société de théosophie ou avec les courants théosophiques contemporains qu'il taxe de pseudo-ésotérisme. La différence entre pseudo-ésotérisme et un ésotérisme réel, demandant à être précisé en deux mots, moi, il me semble que, selon lui, les ésotérismes authentiques sont les ésotérismes qui correspondent au sens intérieur et au monde intérieur des religions révélées, et donc présuppose une révélation authentique, laquelle est l'exotérique, l'apparent, dont l'ésotérique est la dimension réelle et intérieure, tandis qu'un pseudo-ésotérisme se caractérise, au fond, selon lui, par l'absence de toute confirmation de vérité, par une révélation authentique. Et surtout, pseudo-ésotérisme contemporain, formule un peu méchante, bon, on verra qui ça vise, désigne l'autoproclamation de gnostiques qui se désignent eux-mêmes et qui ne se réclament que d'eux-mêmes, par opposition à des traditions réelles et scripturaires, des traditions pleinement établies à l'intérieur du cadre réel de religion elle-même, comment dirais-je, vénérable. Alors, ayant essayé de préciser ce que pouvaient être ces significations au sens, disons, que donnait Corbin, pour ma part, je me contenterai d'une définition que l'on rencontre, mais qui n'est pas en contradiction avec tout ce que nous venons de voir, chez un disciple et commentateur d'Ibn Arabi, Abdelrazzak Kashani, qui a fourni un lexique technique de la terminologie soufie dans l'esprit de son maître, son maître spirituel, Ibn Arabi. Dans cet ouvrage, le Ta'if al-Ilham, il dit très sobrement que celui qui porte le nom de gnostique, el-Aref, est celui qui se connaît soi-même, c'est-à-dire qui connaît son âme, et qui, par conséquent, connaît son Seigneur. Selon un hadith bien connu, « Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu », celui qui connaît son âme connaît par la même, connaît donc son Seigneur. Le mot arabe est passé en persan « arifan », qui désigne, que l'on traduit ici par gnose, pour le distinguer d'une connaissance ordinaire et simplement exotérique, eh bien, cette erfan, cette gnose, conduirait donc de la connaissance de sa propre âme à la connaissance de son Seigneur. Tout repose donc sur l'idée fondamentale selon laquelle l'âme est le miroir de Dieu, et Dieu tel qu'il se révèle au gnostique dans ses actes, ses noms et ses attributs peut être découvert, mais tel qu'il se révèle au gnostique, dans la connaissance par le gnostique des structures intimes, l'univers intérieur de sa propre âme. Cette définition est éclairante parce qu'elle situe les textes que l'on peut reconnaître ou qui se signalent eux-mêmes comme gnostiques en ceci que ces textes partent plutôt de la connaissance de l'âme et par des jeux de miroirs, de comparaisons, d'analogies et d'équivalences structurelles, en viennent à l'analyse même du contenu du monde divin. Je voudrais donc maintenant montrer comment ce savoir et la personne qui en a la charge sont conduits non seulement à un salut, puisque la gnose est connaissance salvifique, mais également à une activité gouvernementale. On a l'habitude de traiter du gnostique en islam essentiellement du point de vue du salut, la gnose étant le véhicule même de transformation de l'âme conduisant à une authentique libération bien distincte du salut exotérique apparent promis par les Écritures. Ceci est d'ailleurs parfaitement exact. Pour un musulman, pour un musulman adaptant la religion commune, qu'elle soit d'ailleurs sunnite ou chiite, le mot salut, plutôt d'ailleurs le mot délivrance, désigne la réussite, si l'on peut dire, la réussite d'une vie qui passe victorieusement l'épreuve du jugement dernier, divin, le jour du jugement, et qui déjà a passé victorieusement par l'épreuve de l'interrogation auquel toute âme humaine est soumise dans la tombe, un peu après la mort du corps physique. Donc, il s'agit d'un salut qui récompense physiquement au paradis, lequel paradis est un paradis physique, l'obéissance à Dieu, sa connaissance, la connaissance du prophète et le respect des commandements divins. En revanche, le salut dit gnostique que propose la gnose, très différent, repose d'abord sur le fait que la tombe, le châtiment de la tombe, puis éventuellement le châtiment ultime au jugement dernier, ne sont que les aspects extérieurs d'une damnation ou, au contraire, d'une libération spirituelle, et considère surtout que cette libération ne se satisfait pas de la seule obéissance à la loi, mais suppose des formes d'ascèse, d'exercice beaucoup plus exigeants que ne l'exigent que les commandements divins, et surtout au terme d'une purification, exige une assimilation à Dieu lui-même sous des formes diverses de vie spirituelle. Si l'on prend l'exemple de Mulla Sadra, le plus grand philosophe du XVIIe siècle de notre ère en Iran, qui est chiite, la thématique de la gnose se confond tout entière avec celle de l'assimilation à Dieu. Pour lui, la structure générale du monde cosmos et du monde spirituel, qui est intérieur au cosmos et qui lui est en même temps supérieur métaphysiquement parlant, eh bien, cette structure procède de l'un divin, certes, de l'un tel qu'il n'est absolument pas concevable, étant au-delà de toute connaissance et de toute appréhension, et donc suspendu, si l'on peut dire, à la puissance de cet un incompréhensible, qui est l'unité divine absolue, on découvre le monde intelligible, le monde des âmes célestes contemplant l'intellect, le monde démiurgique des âmes célestes opérant leur gouvernement en ce bas monde, et enfin le bas monde lui-même. Eh bien, cette structure, nous la retrouvons chez l'homme et dans l'homme, de sorte que par son ascension spirituelle, l'âme humaine se métamorphose, elle se transforme, au sens strict du mot « se transformer », c'est-à-dire qu'elle change de forme, elle passe du statut d'âme sensitive, elle devient une âme imaginative, et enfin elle se conjoint au monde intelligible. Toute la question est de savoir si cette conjonction au monde intelligible, c'est-à-dire au monde entièrement incorporel et immatériel, permet à l'âme humaine d'accéder au monde divin, proprement dit. Il y a là évidemment matière à discussion entre penseurs dits gnostiques et qui se réclament de cet Erfan que nous avons défini plus haut. Pour un homme comme Mulla Sadra, animé d'une motion libératrice et transformatrice, l'âme se délivre des égarements dont la source est l'attachement au monde corporel, elle se délivre de toute passion irrationnelle et elle s'assimile progressivement au monde des purs intellects, lesquels mondes sont les seuils et les voiles de lumière protégeant l'abscondité divine. On a donc une démarche qui est libératrice, mais qui suppose un enchaînement de pratiques spirituelles bien déterminées. Au commencement est la purification, et Mulla Sadra, comme la plupart de ses collègues, insiste sur le caractère absolument indispensable de cette purification originaire, par des exercices redoutables de jeûne, de privation, de privation de sommeil en particulier. Il donne des conseils très nombreux en vue de se priver à peu près de tous les biens d'ici-bas. Et bien entendu, ces exercices d'une très grande sévérité visent à amoindrir au maximum la part de la vie corporelle et sensible. Alors, cela est l'héritage, on le sait, du soufisme, y compris du soufisme sunnite le plus traditionnel. Mais cela nous indique bien que la transformation de l'âme depuis son statut d'âme sensitive jusqu'à son statut déjà d'âme imaginative suppose un effort de purification interne extrêmement prononcé. Au stade où l'âme devient pleinement âme imaginative, elle se conjoint à la démiurgie divine qui est propre au monde imaginal, au monde intermédiaire entre le monde sensible et le monde intelligible. Et déjà, cet aspect des choses nous avertit du fait que le gnostique, au fur et à mesure qu'il se sauve, si l'on peut dire, du monde d'en bas, acquiert certains pouvoirs qui lui sont propres, et en particulier des pouvoirs démiurgiques, analogues aux pouvoirs démiurgiques de l'âme universelle, de l'âme du monde. Donc, la délivrance de la passion irrationnelle s'accompagne de l'acquisition de pouvoirs spécifiques qui peuvent être des pouvoirs magiques, pouvoirs de transformation des corps élémentaires, pouvoir de déplacement, pouvoir d'ubiquité, pouvoir de cette espèce, mais aussi et surtout un pouvoir de création, enfin je préfère de démiurgie, c'est-à-dire d'artisanat spirituel qui va s'exercer à la fois sur les disciples et sur le monde qui l'entoure. Devenu un homme parfait, l'expression Insan Kamil correspondant à l'expression Anthropos Teleios, cette expression grecque, le gnostique atteint le degré où son âme est tout entière intellect et trouve d'ailleurs dans cette situation une limite qu'il est possible de le voir transgresser, mais dans des cas extrêmement rares, nous allons le voir immédiatement. En vérité, arriver à ce stade d'élévation et de purification extrême, d'une certaine manière aussi désincorporé qu'il est possible de l'être, le gnostique a pour mission de rétablir l'ordre de la création tout entier, ce dont le rend capable sa similitude avec Dieu. Puisqu'alors, dit notre auteur, dit Moulin Sadra, il recouvre la véritable essence de l'homme, créée selon la forme du miséricordieux, la forme du nom divin, le miséricordieux. Donc l'assimilation à Dieu n'est pas un simple thème, pourrait-on dire, métaphorique. La similitude et le retour à une forme initiale, l'assimilation est un le fait de recouvrer, de retrouver la véritable essence de l'homme perdue. Ce qui implique bien sûr qu'il y ait eu une chute de l'âme. Et ce thème est tout à fait capital. La chute de l'âme humaine depuis sa véritable patrie est décrite avec force détail. Elle correspond dans le Coran au texte consacré à la désobéissance d'Adam. Et enfin, cette chute de l'âme est considérée comme une descente depuis le monde de la lumière jusqu'au monde de la ténèbre et comme un véritable épaississement de l'âme qui la rendait incapable de retrouver en elle la forme divine. Donc cette chute est aussi une perte considérable que subit le monde divin, puisque dans le monde divin, l'homme, la forme humaine, est la première manifestation, première en dignité, manifestation de l'unité insondable et infigurable de Dieu. Et lorsque cette forme du miséricordieux s'alourdit, s'épaissit, chute et pour finir devient atteinte par toutes les maladies et les disgrâces sataniques, il est bien évident que c'est la manifestation divine tout entière qui est affectée. Alors là, on peut véritablement, je crois, parler d'un thème gnostique, et c'est tout à fait capital. En effet, dire que l'homme est créé selon la forme du miséricordieux, c'est une proposition très précise, qui n'est pas la proposition générale, que l'on rencontre aussi, d'ailleurs, bien sûr, l'homme est créé selon la forme de Dieu. Non, la forme du miséricordieux, c'est la forme du nom divin qui récapitule en lui tous les autres noms divins après le nom Dieu. Et d'ailleurs, le miséricordieux est synonyme du nom Dieu en ceci qu'il témoigne, il manifeste, il témoigne du fait que Dieu existe. Le miséricordieux, c'est le nom qui nomme l'existence de Dieu. Mais Dieu est un nom, lui aussi, et il est un nom qui manifeste, autant que c'est possible, l'unité insondable et inconnaissable du principe de toute chose. Eh bien, ce nom, Dieu, ou ce nom, le miséricordieux, a pour forme exotérique l'homme. Donc l'homme a une dignité supérieure à tous les autres êtres, créé dans la mesure où il est la manifestation de la forme divine. Il est dit par ailleurs par Moulay Sadra qu'il est la manifestation de la forme du Logos. Il est le Logos manifesté et sa chute correspond très exactement à ce qu'on peut appeler la chute du Logos. C'est le Verbe qui descend malencontreusement dans la matière, mais cette chute est également bénéfique, donc à la fois c'est un malheur pour le Verbe et c'est une nécessité pour lui. Moulay Sadra décrit avec beaucoup de précision la façon dont l'intellect, qui est lui-même le Logos, descend, et qui est en fait le miséricordieux, et qui est Dieu, descend d'étape en étape, devient âme et imagination, et là, alors, devient la victime des fantaisies, des suggestions démoniaques, des privations de connaissances, et s'abîme progressivement dans la matière. Mais dans cette chute, l'imagination, qui elle-même procède de l'intellect, procède, quant à elle, à la démiurgie, c'est-à-dire à la formation et à l'organisation du monde. Notre monde s'explique sous deux aspects principaux, grâce à cette gnose, pourrait-on dire, oui, c'est une gnose véritablement, cette gnose de la chute et du salut et de la remontée, de l'ascension. En effet, le monde se caractérise principalement, je vais y venir, par le fait qu'il est assombri, qu'il est le territoire des maux, des péchés, bref, qu'il est dominé par le démon. Mais d'autre part, le monde est caractérisé par sa bonté providentielle ou sa place dans le plan providentiel qui conduira tout existant à faire retour dans le principe divin. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est bien la science divine et l'intellect divin qui, en tant que providence, décret, prédestination et enfin démiurgie, procède à la production du monde. Donc le monde est certes mauvais, il faut s'en évader, certes l'intellect a chuté, le Logos s'est perdu dans cette aventure, dans cette odyssée qui le conduit vers le bas, mais c'est pour former et gouverner le monde. Donc le gouvernement du monde est le produit de la chute de l'intellect, qui d'une certaine façon fait sacrifice de sa patrie originelle, tout en restant attaché à elle d'ailleurs, et en étant capable d'y remonter, en vue d'organiser d'une manière ou d'une autre l'ordre de l'être et l'ordre du bien. L'homme parfait, donc, est celui qui prend en charge à la fois le rétablissement de l'ordre ici-bas autant qu'il le peut dans un univers démoniaque, et d'autre part, de faire remonter l'intellect, le logos, vers sa vraie patrie, c'est-à-dire lui restituer la forme du miséricordieux, la forme divine. Il est donc contraint de s'assimiler à cette forme et, d'une certaine manière, à parachever son expérience par un effacement de soi. Car tel est le paradoxe que rencontre non seulement Molla Sadra, mais Qazi Saïd Koumi ou d'autres auteurs du XVIIe siècle iranien où s'est déployée véritablement la gnose chiite. Le terme de l'assimilation, qui est divinisation, et on retrouve ici des modèles que l'on rencontre, je dis ça avec grande prudence, mais bien avant l'islam, dans le monde des religions abrahamiques, en tout cas le monde chrétien, ce me semble en tout cas, le processus qui va de l'assimilation à Dieu à la divinisation du gnostique est sanctionné par la disparition du gnostique dans la lumière divine. Le mot divinisation, théosis, a son équivalent exact en arabe, talor, et cette divinisation n'est pas l'exaltation ultime de notre gnostique, mais bien au contraire, son effacement intégral. Alors, ce thème avait beaucoup inquiété Henri Corbin. Le dernier livre qui est paru, de son vivant, le dernier texte s'intitule « Le paradoxe du monothéisme ». C'est un texte d'une extrême richesse et il a défendu mordicus et avec beaucoup d'arguments que le fana, la disparition, l'extinction, l'effacement n'était que le préalable d'une surexistence personnelle du gnostique dans le paradis supérieur de la lumière divine. Eh bien, je suis navré de dire que sur ce point, je ne peux pas tout à fait être en accord avec lui. Mais là, ce sont des choix philosophiques. Et c'est remarquable que pour Henri Corbin, toute figure du salut ne pouvait être qu'une figure du salut personnel. Non seulement il était en métaphysique personnaliste, il était dans son christianisme vécu, évidemment profondément attaché au salut personnel de l'individu, oui, de la personne humaine, de la main comme telle, mais il ne pouvait pas ôter de sa lecture des gnostiques cette confiance ultime en une... en une vie éternelle personnelle, dotée d'une conscience intime, une vie qui serait celle d'une sorte de monade se retrouvant dans son paradis spirituel. Au contraire, ce qui me frappe chez les auteurs comme Molla Sadra ou d'autres, c'est que l'homme parfait, qui va devenir le guide authentique, c'est l'homme effacé. Et l'effacement est une surexistence ou une permanence dans la lumière divine, mais si, avec audace et avec, d'une certaine manière, avec esprit de sacrifice, le gnostique passe outre le degré du logos et du monde intelligible qui est le sien, alors il ne peut que s'engloutir dans la lumière divine et l'image constamment présente est celle du mont Sinaï qui éclate, qui explose lorsque Moïse demande à voir Dieu et évidemment ne le verra pas, mais verra en lieu et place l'éclatement du mont Sinaï qui symbolise l'effacement du gnostique accompli. C'est vrai aussi d'ailleurs de Mohammed et de Ali ibn Abi Talib, le premier imam, qui sont présentés très souvent comme des gnostiques radicaux, pourrait-on dire, allant jusqu'à l'effacement complet d'eux-mêmes et la disparition dans la lumière divine. Donc, il y a là quelque chose peut-être de spécifique à l'islam, cette thématique de la disparition, ce goût de la disparition, ou en tout cas ce sentiment d'un danger que court le gnostique lorsqu'il outrepasse la barrière des voiles de lumière que constituent les intellects divins et le monde de l'intellect. Donc, à trop vouloir poursuivre son ascension, la parfaite déification ou la parfaite transformation du gnostique ne peut se faire qu'à la condition d'une disparition intégrale. Maintenant, j'en viens à la puissance gouvernementale. La puissance gouvernementale qui est accordée à cet homme qui a pu retrouver la forme du miséricordieux, cette puissance gouvernementale a été, je crois, pour la première fois mise en lumière de la manière la plus précise par Sohrawardi. C'est Sohrawardi qui, donc au XIIe siècle, dans ce petit manuel, enfin petit par la taille, grand par l'importance, petit manuel de vie spirituelle qui est Hikmat al-Ishraq, la sagesse illuminative ou la sagesse de l'illumination, c'est lui qui a soutenu de la manière la plus claire que le pouvoir gouvernemental devait revenir aux sages divinisés, conduit par la présence en son propre intellect des lumières divines. Et c'est lui qui, dans la préface, donc dans le texte liminaire de la sagesse de l'illumination, de la sagesse orientale, comme traduisait Corbin, c'est lui qui dit que qu'il faut rompre avec l'idée philosophique antérieure selon laquelle le gouvernant du monde, d'ailleurs, pas simplement de la cité, pouvait être un savant dans les sciences réflexives, autrement dit, un homothète comme l'avaient conçu les aristotéliciens. Il ne suffit donc pas d'avoir une connaissance intellective aiguisée, il ne suffit pas d'être un maître en sciences syllogistiques, il faut encore être un sage divinisé. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé, en particulier dans le monde iranien, une réflexion théologico-politique très importante sur la manière dont un sage divinisé pouvait exister et dont il pouvait exercer son pouvoir gouvernemental, non seulement sur lui-même, mais sur les autres. On voit très bien le passage entre une conception qu'on rencontre chez Avicenne, qu'on rencontre chez Farabi, qu'on rencontre chez tous les philosophes aristotélisants, ou en tout cas dominantes aristotéliciennes, et a fortiori chez Averroès, et d'autres penseurs andalous de même importance d'ailleurs. On voit donc le passage entre la conception qu'on a chez ces gens-là du gouvernement humain et celle qui s'élabore à partir de Sohrawardi. D'un côté, le gouvernant qui est un homme parfait parce qu'il a un intellect en acte parfait uni à l'intellect agent qui est une intelligence divine, crée des lois, des bonnes lois. C'est un homothète excellent. La cité parfaite est une cité régie par des lois rationnelles et inspirées de la vie intellective elle-même du gouvernant. Cette fonction correspond à la lecture des abrégés des textes des lois de Platon par les falasifas de l'islam, les philosophes de l'islam. Maintenant, c'est tout autre chose. Il ne s'agit pas de gouverner au sens nomothétique du terme, il s'agit littéralement de procéder à un gouvernement charismatique dont d'ailleurs Sora Vardi donne des exemples en se référant au roi mythique de l'ancien Iran. La référence perse de Sora Vardi est très claire. Il fait référence en particulier au roi Kayrosro, dont la geste est racontée dans le Livre des Rois. Et on voit très bien quelle est la procédure, si on peut dire, de formation du gouvernant. D'abord, purification. Notre roi est un roi délivré autant qu'il a pu faire des passions irrationnelles. Puis, illumination. Et l'illumination n'est pas simplement l'éclairage par l'intellect agent de l'intellect humain. Il est nimbé, dit Sora Vardi, par la lumière de gloire. Donc il est divinisé, non pas par son propre effort, mais par un choix divin. À partir de là, des combats homériques qu'il oppose aux forces du mal, et ces forces du mal étant évidemment, comme toujours, symbolisées par un turc, un fraciable turc, donc il élimine des armées sans nombre. Il y a donc une épopée héroïque, comme disait M. Corbin, c'est lui qui utilisait cette expression, il avait raison, parfaitement intense. Et une fois qu'il a nettoyé la terre des éléments démoniaques qui l'empestaient, il abandonne le pouvoir, et là il commence la dernière phase de sa divinisation, qui est justement son effacement. Il s'efface à ce monde, se retire dans d'une vie érémitique, et au terme de la vie érémitique, il disparaît tout à fait. Il est véritablement dans un processus de dépouillement de la royauté. C'est un roi voué à se dépouiller de sa propre royauté après avoir exercé le gouvernement que le Logos divin lui commande d'exercer. Cette puissance gouvernementale repose évidemment sur une conception dualiste de l'univers et en particulier sur un sentiment constamment exprimé du fait que le monde d'en bas, le monde inférieur, n'est pas mauvais en soi, parce qu'il reste providentiellement produit, mais il est foncièrement illusoire. Il est mauvais, certes, parce qu'il est matériel, mais surtout parce que la matière est, comme telle, pure potentialité et domaine de l'illusion. C'est quelque chose qui me frappe constamment, cet usage de l'expression « pays de l'illusion ». Il faut se libérer du pays de l'illusion. Mola Sadra, par exemple, utilise l'expression selon laquelle le monde sensible est fait de voiles de ténèbres, de choses changeantes et corporelles. Les choses corporelles étant mauvaises, moins parce qu'elles sont corporelles que parce qu'étant corporelles, elles sont évanescentes. Bref, le monde est un songe imaginaire. Les formes sont des formes dans les miroirs, il n'y a rien de stable, tout s'anéantit sans cesse et se transforme ici sans cesse, et voilà pourquoi le monde est le territoire de Satan. En elles-mêmes, les choses corporelles n'auraient rien de désirable, elles sont même en règle générale haïssables, mais Satan produit l'illusion du monde. Vous voyez, ce sont les passions démoniaques qui nous persuadent du fait que le monde, qui n'est qu'un songe, a une consistance quelconque. Alors, pour en finir avec ce thème pour finir l'évocation rapide de ce thème du gouvernement lié au thème du salut, il faut bien concevoir que par un certain nombre d'auteurs, je vais en citer un maintenant, ont interprété interprété le terme de la gnose, de la démarche du gnostique, de son ascension, de telle sorte que cette fin, cet aboutissement, transforme le gnostique en guide par excellence pour enseigner les âmes humaines. Je fais allusion ici aux interprétations produites par Fazi Saïd Koumi, un philosophe encore du XVIIe siècle iranien, grand exégète. Quand je dis philosophe, il est essentiellement un exégète, et en particulier un exégète des thématiques de l'homme parfait. Il écrit au sujet de l'âme divinisée de l'homme parfait que cette âme reçoit des pouvoirs incorporels qui en font le miroir de la face de Dieu. Je le cite, « Lorsque ces âmes divines et nobles deviennent le miroir de sa face suprême, face de Dieu, alors Dieu voit en elles sa face qui ne disparaîtra pas et il entend sa parole à la manière dont il voit. L'âme noble jouit de l'ouïe et de la vue, car la vision de la face, comme nous le disons, implique ces deux perceptions du côté de celui qui voit et donc entraîne leur existence du côté de ce qui est vu. Car en ce cas précis, celui qui voit n'est pas vis-à-vis de celui qui est vu. » Bon, ça demanderait beaucoup d'explications, de détails, peut-être pour être intéressantes, mais je m'en tiens à la question de la face et du visage. Donc, les âmes divines, c'est-à-dire les âmes divinisées, deviennent le miroir du visage suprême, dit-il, de Dieu, sa face. Et en retour, Dieu voit sa face dans les âmes divinisées. Alors, cette dialectique de la face de Dieu et de la face de l'homme, que M. Corbin a étudié dans un article où il cite précisément Fazi Saïd Koumi, d'ailleurs un autre texte que vous connaissez, que vous pouvez vous référer, cette dialectique de la face de Dieu et de la face de l'homme se fait bien sûr au niveau précisément de la face, et non pas de l'abscondité de l'essence divine, au point que la face de Dieu ne fasse qu'un, en effet, avec la face de l'homme. Alors, il faut ajouter que ce thème qui semble si prodigieusement fécond, et qui l'est d'ailleurs, va permettre à notre auteur de réhabiliter l'ensemble de la religion. L'attitude du gnostique et son ultime réalisation mystique, la vision de la face divine et le fait d'être le miroir même de Dieu dans lequel Dieu se contemple, ne permet pas autre chose que de fonder toutes les obligations et les obligations les plus sévères. On le voit dans le commentaire que produit Fazi Saïd Koumi, un commentaire de taille considérable sur les propos que tient Ali ibn Abi Taleb, le premier imam, qui dit « Je suis la science de Dieu, je suis le cœur éveillé de Dieu, la langue de Dieu qui parle, l'œil de Dieu, le flanc de Dieu, je suis la main de Dieu, etc. etc. » Des prônes tout à fait stupéfiants qui s'achèvent par « Je suis Ali ibn Abi Taleb ». Ces prônes sont des prônes qui sont hantés par l'incarnation. Pas d'autre mot, hantise de l'incarnation. Ils sont hantés en deux sens, c'est-à-dire ils veulent éviter à tout prix la proclamation d'une incarnation de Dieu dans la personne de Ali ibn Abi Taleb, premier imam, mais ils sont hantés aussi du désir, j'ai envie de dire, de coquetterie avec l'incarnation. Parce qu'enfin, après avoir dit « je suis la science de Dieu, je suis le cœur, je suis le… » Enfin, il est tout, il est l'ensemble des organes de Dieu, chose que notre philosophe gnostique va commenter, Ali dit bien « je suis Ali ibn Abi Taleb ». C'est-à-dire, ça n'est pas une figure. Celui qui prononce ces mots n'est pas autre chose qu'une figure humaine en chair et en os. C'est lui qui, dans son prône, le dit. Et je ne crois pas qu'on puisse le distinguer ici d'une figure autre que celle qu'il a au moment où il parle. Mais alors, si l'on veut éviter à tout prix cette incarnation dont, à mon sens, ces textes sont hantés véritablement, non, il faut revenir à cette notion de face de Dieu et de miroir de la face de Dieu. L'imam peut s'attribuer tous les attributs divins et tous les organes de Dieu dans la mesure et dans la mesure seulement où il en est le récipiendaire. Il est le dépositaire. Et l'intellect universel, le logos, qui est le degré de la science détaillée de Dieu, constitue la lumière de Ali. On peut donc dire que le fondement du gouvernement religieux est un fondement gnostique, puisque ce fondement n'est autre que la lumière du premier imam, qui est le gouvernant par excellence, que cette lumière est un intellect, et que cet intellect n'est rien d'autre que la science divine elle-même. Donc Ali est fondé à dire « je suis la science de Dieu », ce qui signifie « je possède l'autorité absolue ». Pour conclure, je dirais que ce gouvernement religieux qui se fonde ici sur la gnose et qui n'est rendu possible que par elle, suppose évidemment des guides ou des rois, comme on le voit chez Sohrawardi, qui soient véritablement dotés de pouvoirs charismatiques, enfin, dotés de charisme considérable. Tout un chacun ne peut évidemment y prétendre. Cependant, tout un chacun peut s'assimiler au guide. Et alors, de même que le gnostique est celui qui s'assimile à Dieu, le croyant devient celui qui s'assimile au gnostique. Et je conclurai par ceci que les gnostiques, ou ceux qui sont passés pour tels, comme d'ailleurs leurs confrères, si j'ose dire, les soufis sunnites, de toutes sortes, servent de modèle à une éthique de l'effacement qui est devenue l'éthique la plus fréquente, les modèles les plus répétés dans le monde iranien jusqu'au temps contemporain, qui ont changé les choses. Cette éthique de l'effacement ne se substitue pas à la loi, mais elle accompagne la loi d'un effort très substantiel, d'un effort de purification, d'amoindrissement de soi, d'humilité. J'ai essayé par ailleurs de présenter l'ensemble de ces vertus ou puissances que l'on acquiert au contact du gnostique, mais je ne peux pas toutes les résumer. Mais il y a finalement une éthique de la libération, pas l'amoindrissement, l'effacement de soi. Je n'en prendrai, si vous voulez, qu'un exemple que j'ai cité, mais je me permets de le citer ici, et je conclurai sur cet exemple. Il est, comme j'essaye de le dire, il s'agit de porter attention à soi, de porter une attention permanente, non pas pour avoir un souci de soi, au sens le plus large du terme, mais pour avoir un souci de soi comme ennemi potentiel de son propre salut. Il s'agit de se laisser guider, il faut diminuer son âme, il faut pratiquer des exercices répétés d'humiliation, pratiquer l'humilité envers les créatures, envers les autres hommes. Il faut accepter toutes les admonitions amicales et sincères. Enfin bref, il faut se répéter sans cesse que foncièrement, on n'est rien. C'est ça, c'est le renoncement à l'être personnel a pour adversaire la passion irrationnelle, et la passion irrationnelle porte en elle-même toutes les illusions des prospérités de l'âme ici-bas. Donc, suivre le guide gnostique, c'est essentiellement s'effacer devant Dieu pour n'être plus qu'une étincelle de la divinité. Et l'image qui en est proposée, et qui vient d'ailleurs de la littérature du soufisme sunnite, ce qui rend l'image encore plus valable, enfin encore plus riche, encore plus puissante historiquement, le sage, donc celui qui suit son guide gnostique, se voit comme un mort que meut la puissance éternelle à la façon dont les mains du laveur remuent le mort. Donc, il faut être en total abandon de soi, et c'est cette destination spirituelle qui est le véritable gouvernement du gnostique. Alors, je n'ajouterai rien à cela, pardon d'avoir hélas débordé un petit peu, enfin, je pense commencer peut-être un peu plus tard, je suis navré, mais je n'insiste pas sur le fait que ce gouvernement ou cette politique du gnostique n'a strictement rien à voir, du coup, avec une politique étatique. On est passé d'un pouvoir dont le modèle était le pouvoir royal à un modèle de gouvernement de soi qui est véritablement en marge de toute espèce d'exercice du pouvoir politique. C'est une politique de soi et des autres qui se situe non pas en marge, mais à un autre degré que celui de la politique étatique. Et hélas, ce qu'on a vu, c'est que lorsque cette thématique s'est combinée à une politique étatique, eh ben, elle s'est tout simplement effondrée, et avec elle, toute forme de liberté, toute forme d'épanouissement, toute forme d'assimilation, toute forme de salut, et évidemment, toute forme de divinisation. Je vous remercie.